Philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le père Marie-Dominique Philippe, le 4 décembre 1998, à Saint-Jean-d'Arc.
Nous voyons, donc c'est un nota bene, en dehors du cours. Hein. Faut pas prendre note de ça, parce que j'ai... Qu'est-ce que la théologie morale dont parle l'encyclique Fides et Ratio? Oui. Chapitre 6. Le Saint-Père revient là subitement sur une distinction dont je ne sais pas exactement la date. Si parmi vous il y en a qui le savent, ils me le diront. C'est la scolastique décadente, donc souvent après le XVIIe siècle. Va distinguer la théologie même de Thomas d'Aquin, théologie spéculative, théologie dogmatique, théologie morale, théologie fondamentale. Le Saint-Père prend ça comme si ces distinctions que la théologie de Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, la théologie est éminemment spéculative. Non, la théologie est spéculative et éminemment morale. Donc éminemment pratique. Parce que la foi est contemplative. Donc spéculative, contemplative. Éminemment pratique. Elle est au-dessus de la distinction spéculatif et pratique. Et la distinction spéculative et pratique est une distinction de philosophie, de philosophe. Or, la foi est une lumière divine. En Dieu, il n'y a pas la distinction du spéculatif et du pratique. C'est évident. Il y a la distinction de la contemplation de Dieu et de Dieu créateur. Mais ça ne modifie pas Dieu et ça ne modifie pas sa connaissance. Ça nous modifie, nous. Parce que s'il n'y avait que la connaissance de Dieu qui se contemple, nous ne serions pas là. Dieu a eu la bonté pour nous. Éminemment pratique, quand il s'est mis à créer. La création de l'âme relève d'une connaissance pratique de Dieu, mais qui n'est pas du tout celle de l'artiste, très différente. Elle implique une contemplation de lui. Dieu ne peut pas nous créer sans se contempler. Donc, cette connaissance de Dieu est une connaissance qui ne peut se comprendre qu'à partir de sa contemplation de lui-même. Et la théologie, par la foi, nous met dans la lumière de Dieu sur lui, dans la lumière de Dieu sur la créature. L'homme est appelé image de Dieu. Imago Dei. Dans la vision de Dieu sur moi. Est-ce que le philosophe peut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Fabrice Commode sera à répondre. Je ne le dirai pas, moi. C'est une expression de théologien, parce qu'elle est dans l'écriture. tu as créé l'homme à son image. Mais il y a quelque chose de juste que le philosophe doit garder. C'est que cette expression de la Bible, donc des traditions religieuses, le philosophe doit regarder. C'est une distinction qui repose sur un fondement où, si elle est un mythe, je dirais que cette distinction du Dieu créateur et du Dieu père, c'est justement quand Dieu crée un esprit, une âme spirituelle, et quand Dieu crée des réalités physiques. Les réalités physiques sont créées par Dieu. C'est sûr, notre cosmos est créé par Dieu. Mais est-ce que Dieu a créé toutes les espèces animales? Il a voulu. Mais je crois que là, Dieu se sert d'une certaine... du devenir. J'oserais pas dire que l'acte créateur de Dieu est distinct pour chaque espèce d'animaux. Sans doute pour la communication de la vie. Mais ça reste un très gros problème au plan philosophique. Le philosophe ne peut pas préciser, je crois. L'évolution voudrait que le philosophe précise. L'évolution est née dans une perspective anti-chrétienne et anti-religieuse. De sorte qu'il faut reprendre tout cela dans un regard de sagesse divine. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. On commence aujourd'hui à critiquer énormément cette vision de l'évolution qui a voulu pendant un certain temps tout prendre et qui a fait que le philosophe n'a pu oser parler de la création. Ça, c'est net. Mais l'évolution n'est pas au niveau de l'être. L'évolution est au niveau de la vie. Alors que la création est au niveau de l'être. Donc c'est pas gênant l'évolution. C'est au niveau de la vie. Comment il y a eu un passage de l'araignée, du rat, à l'homme. Il y a eu toute une gamme, un escalier très grand. Et l'homme, création de l'âme spirituelle. L'homme, mais Dieu n'a pas créé l'homme de toutes pièces. Non. Je crois qu'il y a le corps de l'homme et l'âme. Alors, est-ce que le corps de l'homme provient d'une évolution de l'animal. Ou est-ce que Dieu a voulu faire proprement la chose comme un grand artiste qui fait des croquis et puis qui fait son chef-d'œuvre après. Amsterdam, il y a quelques années, une très belle exposition de Rembrandt. On montrait tous les croquis de Rembrandt qui étaient gardés. Et puis, quand Rembrandt reprend, il reprend tout, non pas à partir de ses croquis, en collant. Non, pas du tout. Les croquis, c'est se faire la main. Alors, est-ce que Dieu s'est fait la main? Il a fait un croquis quel est l'animal qui ressemble le plus au corps de l'homme. C'est intéressant, il faut laisser avant. C'est très intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement, puisque le corps de l'homme est unique grâce à l'âme. Oh, il ne peut pas y avoir évolution pour l'âme spirituelle. Impossible. L'âme spirituelle est créée directement par Dieu. Ça, c'est une question de foi même. L'Église est intervenue là. Et le philosophe Aristote le dit. La création de l'esprit relève directement de Dieu. Une âme spirituelle relève directement de Dieu. Ça ne peut pas être le fruit d'évolution. Alors vous voyez, il y a tout un problème énorme là, qui nous dépasse complètement. Qui est intéressant. Hein. C'est intéressant, ça vaut la peine de faire un cours philosophique sur la critique de l'évolution. Et tout de suite voir la distinction entre être et vie. Que le biologiste ne fait pas. Sa science. Alors, ceci pour montrer que la théologie part de la foi. La foi est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. La foi touche l'intelligence avant cette distinction. Elle touche de l'intérieur l'intelligence. Dieu, auteur, créateur de l'âme spirituelle, touche mon intelligence dans ce qu'elle a de plus natif, dans son point de départ. Et Dieu humaine par la foi une possibilité nouvelle de l'écouter, de discerner la parole de Dieu de la parole humaine. C'est ça la foi, de discerner ce qui est parole de Dieu et ce qui est parole humaine. Et comme la foi est une connaissance d'enfant, bien se dire ça, c'est la connaissance dans son état le plus imparfait. Mais Dieu a transformé ce premier moment de l'intelligence humaine, qui est une intelligence qui fait confiance à l'autre. Le problème de Lévinas. C'est pas étonnant, hein. Lévinas est un croyant. Il a une foi très profonde dans le mystère de la foi de la création. Et donc, il saisit bien que la connaissance de l'autre est donné radicalement par la foi. L'autre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et puis à partir de Dieu, il y a l'autre, le prochain. Et c'est pour ça que l'amour regarde Dieu et regarde le prochain. Et c'est un amour divin qui me fait toucher Dieu. Qui me fait toucher le prochain. Donc toucher l'autre. Et dans la connaissance de l'autre, il y a premièrement un amour. Dans la connaissance de Dieu, c'est net, dans la connaissance de l'homme, c'est net aussi, puisque c'est la connaissance du prochain. Et cette connaissance implique cette étape de confiance. Au point de vue humain, comme au point de vue divin, tout naît à partir de cette confiance. Et cette confiance est détruite. Je comprends que la confiance en l'homme est terrible. Parce que on ne sait jamais si l'ami ne sera pas un traître. Et c'est là où on voit combien, au plan philosophique,
à vous dire.
considérer que la connaissance que Dieu a de lui est une connaissance spéculative. Complètement faux. Connaissance personnelle divine. La plus intime qui soit. Alors, mon intelligence, ma puissance, dans l'âme et qui émane de l'âme. Directement, Dieu crée en mon âme, crée mon intelligence par mon âme, par les médiations de mon âme. Et c'est pour ça que je ne dis pas que Dieu crée mon intelligence. Quand vous vous posez la question, est-ce que Dieu crée la même intelligence pour tous les hommes ? Réponse, il ne crée pas votre intelligence. Alors vous scandalisez les gens là. Les gens sont scandalisés. Vous ne croyez pas que Dieu crée votre intelligence ? Mais non, il crée mon âme. Et de mon âme, il touche mon intelligence. C'est ce que Feuerbach n'a pas compris. Pas étonnant, parce qu'il a ni l'existence de Dieu, donc il ne comprend pas. Il fait une intelligence, une substance. Il est néo-platonicien. Alors, mon âme spirituelle est source. Mon âme spirituelle est source de l'intelligence. Et Dieu agit de l'intérieur. C'est pour ça qu'il est le maître intérieur. Donc, il touche mon intelligence à partir de mon âme. Et il la touche en l'aimant. Tout toucher de Dieu est un acte d'amour, puisqu'il est intérieur. Et Dieu Père va incliner par son amour, va incliner mon intelligence à l'écouter. La foi est premièrement Dieu me parle. en donnant à l'enfant ce qu'il lui faut pour qu'il ne crie plus quand il a faim. Que l'enfant, petit à petit, reconnaît sa mère. Vous voyez, la nourriture est la première parole. C'est la première communication. Le lait maternel. Ou la nourriture moderne, qui est un lait très particulier. Et la mère donne cette nourriture à l'enfant. L'aliment. La parole est l'aliment. Parce que la mère parle de l'extérieur. Tandis que Dieu parle de l'intérieur. Dieu me rend intelligent. Dieu éveille mon intelligence à recevoir sa parole. Et donc, il incline mon intelligence en lui donnant soif de sa parole. Et c'est pour ça que le théologien précise qu'il y a un premier amour, pia affectio, concil d'orange, l'intelligence à recevoir, qui fait que mon intelligence devient réceptive d'en haut de Dieu. Par le baptême, l'enfant reçoit la foi. Et donc par le baptême, il reçoit cette capacité nouvelle. Chose qu'il reçoit de sa mère, c'est l'aliment, c'est la présence. Parce que la connaissance affective est une connaissance aimante qui est sensible à la présence plus qu'à la parole. Le lien avec la mère est en premier lieu un lien de présence. Qui a existé avant la naissance. L'enfant est présent à la mère, mais la mère est présente à l'enfant. Et c'est ce point de vue de la présence qui fait le lien. Donc l'autre ne peut se connaître que par une connaissance affective. Et c'est ça que Lévinas avait beaucoup de peine à comprendre, parce qu'il avait une méthode phénoménologique. Or, dans la méthode phénoménologique, y a-t-il place pour une première connaissance affective qui est le toucher? C'est la grosse question. Dans la connaissance de la phénoménologie, y a-t-il place pour le toucher? C'est tout de suite, une connaissance de l'autre, une connaissance de logos. Ce n'est pas premièrement une connaissance affective. Or, Dieu, lui, puisqu'il a créé la nature, la première chose qu'il donne, c'est la possibilité de saisir sa présence par la foi. Dieu parle. Si Dieu parle, il est présent. Il est présent dans une présence qui fait qu'il y a possibilité de l'entendre, de l'écouter. C'est l'ouverture de l'intelligence à l'autre, et l'autre qui est Dieu, qui est ma source, qui est mon créateur, que la foi m'ouvre. Elle m'ouvre à ce premier contact, à cette présence obscure. Elle m'ouvre à cela. Donc, bien avant la distinction du spéculatif et du pratique, elle est radicale. Et elle ne modifie pas la nature de mon intelligence. Elle surélève la nature de mon intelligence en faisant que, grâce à l'action de Dieu sur mon intelligence liée à l'amour devient capable d'écouter Dieu qui parle, d'écouter la présence de Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu se donne, pourquoi Jésus se donne par l'Eucharistie? C'est la présence silencieuse. Ça rejoint ce qu'il y a de tout à fait premier dans la foi, connaissance aimante. Donc, je vois que le développement de ma foi va être un développement qui va exiger premier développement de mon intelligence se faisant à travers cette présence. Je vais discerner là différents types de présence. Et c'est vrai que Dieu me parle de diverses manières. Dieu me parle par des gestes, des actions charismatiques, des gestes de sa toute-puissance. Et Dieu me parle en se servant de mon langage, de ma langue, pour m'instruire. Donc tout de suite, vous voyez que l'éducation de Dieu en moi, elle est pratique, affective. C'est pratique. Et elle est éminemment contemplative. Et cette éducation de Dieu en moi, si j'ai reçu le baptême, et première, Dieu va plus vite que n'importe quel autre maître. Mais l'action de Dieu est antérieure, c'est ça que je veux que vous compreniez, à la distinction du spéculatif et du pratique. Alors, si cette action de Dieu est première au point de vue de la foi, la distinction en théologie du pratique et du spéculatif doit-elle exister? Ou est-elle factice? Est-elle quelque chose de factice? Est-elle quelque chose uniquement pour m'aider? Une adaptation de Dieu? La distinction du pratique et du spéculatif arrive vite, très vite, dans le développement de mon intelligence. Parce que mon langage est à la fois au milieu d'un monde qui parle. Toi, c'est notre corps. Je nais au milieu d'un monde qui parle et qui, dans sa parole, implique la distinction du spéculatif et du pratique. Personne, personnalité, blanc, blancheur. À quel moment est née cette distinction à l'intérieur du langage? On ne peut pas le savoir. Dans toutes les langues qui existent, je crois. Mais voyez, le chinois aurait voulu dépasser cette distinction. Parce que le spéculatif, l'abstraction, les mathématiques, c'est une science qui s'est développée très vite. Et elle maintient l'abstraction. 1 et 1, 2. Or, vous dites, une balle, plus une balle, 2 balles. Et vous abstrayez la balle, vous regardez 1 et 1, 2. Et puis il y a le langage métaphysique, 1. Il m'a dit, j'ai 2 professeurs. Et donc, au plan humain, est intervenue la distinction du spéculatif et du pratique dans la langue. Dieu, en se servant de ma langue, se sert de termes spéculatifs et de termes pratiques. Et donc, si Dieu se sert de cette distinction du pratique et du spéculatif dans ma langue, je vais avoir 2 développements de la foi. 1, pratique. 2, spéculatif. Donc, contemplatif et pratique. Tu crois? Alors, à la place de prendre la foi qui se nourrit de petits pains, à la place de voir dans l'instinct, à la place de voir dans le développement de l'intelligence du croyant spéculatif et pratique, je reviens toujours à sa source, la foi. Dieu qui me parle. Alors, l'origine de la foi, telle qu'elle m'est donnée dans la révélation, c'est Dieu qui vient commander à Abraham, va, quitte ton pays, va dans une terre promise. Dieu dit ça, c'est un commandement, c'est d'ordre pratique. Mais ce pratique venant de Dieu est ordonné au bonheur de l'homme, est ordonné à faire de l'homme d'Abraham un ami, et est ordonné par là à entrer dans une connaissance toujours plus pratique. Et c'est qu'au niveau de la révélation, tout est commandé par le bonheur de l'homme. Dieu me conduit dans un lieu qui est son lieu, où je pourrais vivre avec lui. vrai que dès que Dieu me parle, il m'enseigne et me conduit vers un au-delà que je ne fais pas et qui m'est donné. Dieu me promet un héritage divin que je ne fais pas. Il y a donc dans la foi la coopération avec Dieu, dans l'obéissance, et il y a dans la foi un regard contemplatif. Ce qui fait dire à Thomas d'Aquin que la foi est contemplative et que la foi est éminemment pratique. D'où la théologie sera contemplative ou elle ne sera pas. Et elle sera éminemment pratique. Mais la théologie est une. Et la distinction de théologie dogmatique et théologie morale est une distinction qui est arrivée à un moment où les conclusions théologiques ont été regardées plus que la source. Alors on a divisé la théologie. Ce qui, je crois, est une erreur. Oui, c'est le côté humain. On humanise la parole de Dieu. Alors que on devrait toujours comprendre que la parole de Dieu élève le point de vue humain vers le divin. Humaniser la parole de Dieu, ce n'est pas la théologie. La théologie, c'est la parole de Dieu qui assume l'humain. Et toujours, les deux perspectives, on regarde dans le Christ, dans la foi, d'abord qu'il est Dieu, ensuite sa mission. On regarde dans le Christ, d'abord qu'il est homme, puis on dit cet homme est Dieu. C'est très important de voir ça. C'est pour ça que quand j'ai vu que le Saint-Père reprenait ça, je ne dis rien puisque c'est le Saint-Père. Mais j'aurais aimé que, à partir de tout ce qu'il a dit avant, il montre ces deux mouvements de la théologie. Humaniser, diviniser.